Chers amis, Hachem Alechem Tiahu, le Orech Yamin Tovim Shanim Yamin. Nous poursuivons notre étude de Parashat Vaigash. Nous sommes à présent arrivés à la descente de Yaakov en Égypte. Donc Yaakov avait dit, mais à présent que Yosef est vivant, je vais aller le voir avant de mourir. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il est parti à Beersheba. Et là, à Beersheba, il fait des sacrifices. Vayomer Elohim l'Israël bemarot alayla. Et là, il est dit, l'Éternel parla à Israël dans la vision nocturne. Vayomer, il lui dit, Yaakov, Yaakov. Il appelle à deux reprises. Vayomer inemi. Donc, en général, quand Dieu appelle l'homme, il appelle à deux reprises. On trouve ça dans Shmuel, dans tous chez Abraham. C'est à deux reprises. Moshe, Moshe. Seulement ici, le seul où il n'y a pas d'interruption entre les deux Yaakov, entre les deux noms, c'est Moshe. Alors que chez Yaakov, il y a un passé, il y a une coupure. Yaakov, Yaakov. Donc, dans les Svarim, on indique que le seul qui a une perception totale et parfaite de la présence divine, de la conscience prophétique, c'est Moshe Rabbeinu. Donc je pense qu'il n'y a pas de coupure. Le Moshe d'en haut est identique au Moshe d'en bas. Le Yaakov d'en haut n'est pas totalement ressemblant à celui d'en bas. Il y a pourquoi? Parce que le niveau prophétique n'est pas identique. Alors il lui dit, mais voici, je suis prêt. Ineni, c'est très important de répondre. On remarque que Shmuel, quand il était petit, il était couché et il entend une voix qui l'appelle. Alors au début, il ne sait pas de qui il s'agit. Et quand il va, il est perturbé. Il pense que c'est Elia Cohen qui l'appelle. Donc il va voir Elia, il dit, tu m'as appelé? Il dit, non, je t'ai pas appelé. Il dit, va dormir. Alors, il va dormir. Et encore une fois, il a une voix qui l'appelle, Shmuel, Shmuel. Et il va voir Elia, il dit, tu m'as appelé? Il dit, non, je t'ai pas appelé. Alors, Elia comprend que l'enfant a une prédisposition à la prophétie. Et lui dit, quand il t'appelle la prochaine fois, dis-lui oui, je suis là, ineni, dis-lui ineni. Ineni, c'est je suis prêt, je suis réceptif, je suis le récepteur, je suis prêt à être le récepteur de la parole divine ou du message divin. Alors il lui dit ineni, donc prêt à recevoir. Alors, c'est des gens qui sont pas prêts à recevoir. Alors il lui dit, voyons, meranochi el eloi avicha, il lui dit, je suis le Dieu de ton père, ne crains pas de descendre en Égypte. Parce que là-bas, tu seras, qui les goy gadol asim racham, je te formerai en une grande nation. Anochi ered, or Dieu lui dit, Anochi ered aimecha, je descendrai avec toi en Égypte. Ve Anochi et moi-même, à Alcha, je t'en ferai remonter. Gam alo. Alors, gam alo, et aussi je te ferai remonter. C'est comme si que le mot Alcha, donc il lui garantit de le sortir d'Égypte, de le monter d'Égypte. Mais à deux reprises. Alors c'est le verbe monter d'Égypte, je te remonterai d'Égypte, je sortirai d'Égypte. Il est dit en double. Il est la forme elle est construite. Al chagamalo et le mot gam il vient rajouter tout chaque fois qu'il y a marqué gam dans la Torah, c'est pour ajouter encore. Alors combien de sorties? Mais Yosef, donc ici, il s'agit de comprendre qu'il y a une double sortie, certes, garantie à Yaakov que lui-même sera enterré en Eretz Israël et que sa descendance sortirait. Mais non seulement ça, mais gam alo, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a à récupérer, non seulement Yaakov va sortir d'Égypte, non seulement Israël va sortir d'Égypte, mais tout ce qu'il y a à récupérer sera récupéré. Ils sortiront pas seuls. Ils sortiront avec tout ce qu'ils doivent emporter avec eux. C'est Hachem qui va les sortir, les monter de l'Égypte. Donc comme si qu'il y a ici un concept qui est enfoui, il est impossible de sortir d'Égypte, mais c'est Hachem qui va agir. Et non seulement ils sortiront eux, mais aussi avec tout ce qu'il y a à sortir, comme si ce qu'il y a à sortir est aussi impossible à arracher à l'Égypte. Et c'est Hachem qui va le faire. Il s'agit, sans aucun doute, de toutes les nitzotzot et kedusha, toutes les énergies éparses qu'il y a dans ce pays enfoui. et qu'ils vont récupérer. Et certainement, c'est pour ça qu'ils sortent avec d'immenses richesses, et que c'est Yosef qui a amassé. Alors, si on s'étonne, pourquoi avoir fait les années de famine, pourquoi avoir fait les choses de telle sorte qu'il y ait des années d'abondance, des années de famine, etc. De sorte que les peuples aillent déverser leur or et leur puissance, leur argent en Égypte. Et Yosef a amassé tout ça. C'est comme si qu'il y a des nitsotsot, des énergies éparses aux quatre coins du monde, qui soudainement, par un événement particulier, se déversent dans un réceptacle, qui est l'Égypte, enfoui au fin fond de la matérialité de l'Égypte. Et quand Israël va sortir, alors non seulement ils vont sortir eux, le Erev Rav, et tout ce qu'ils possèdent, tout ce qui doit sortir, et aussi toutes ces richesses, de telle sorte qu'ils laissent l'Égypte sans rien. La Gemara dit Asu ota kemtsula shen badagim. Ils ont fait de l'Égypte en la quittant une profondeur des mers, comme si que dans la profondeur des mers, metsula, profondeur des mers, il n'y a plus de poissons. Ils ont vidé les profondeurs des mers de leurs poissons. Il reste rien en Égypte. Toute l'énergie qu'il fallait sortir s'en sortit. Dans ce cas, c'est ça ce qui est marqué. Ve'anochi alcha gam alo. Donc c'est la finalité, la raison pourquoi ils sont en Égypte, c'est là. Et bien Yosef yashit yado al enecha. Et Yosef placera tes mains sur tes yeux. Donc c'est Yosef qui va assister à la mort de Yaakov. Donc il va mourir dans la paisible, dans la tranquillité, dans la satiété. Il est heureux. Donc il est dans la quiétude. Va Yaakov Yaakov mi Beershava va Yisou Beni Israël et Yaakov Aviem. Donc il s'est levé de Beershava. Il se lève de ce lieu pour se rendre en Égypte. Et c'est les enfants d'Israël qui vont le porter, qui vont le transporter, qui vont l'amener en Égypte, eux et tout ce qu'ils possèdent. Ba Agalot cherche alors Paro. Et là c'est les Agalot de Paro qui le transportent. Mais revenons un instant ici sur la vision prophétique. Voyons Mer Anochi. Il lui dit, l'Éternel lui dit, Anochi, moi-même, je suis Ha-Ha-El. Ha-El, le mot Ha-El, quel c'est le Dieu tout-puissant de bonté. La puissance de Dieu ne se mesure pas à la force de destruction, mais à la force de bonté, l'amour. Le père de Eloé Avira. Alors, il ne craint rien, ne craint pas de descendre en Égypte. Je t'accompagnerai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il accompagne à... Alors, c'est le concept de l'exil. Le concept de l'exil, il est que là où les Bnei Israël vont, la Shekhina est avec eux. Au niveau des Avot, il n'y a pas encore le concept de la Shekhina. La Shekhina, c'est la partie féminine. L'essentiel, nous disent nos maîtres, du Shem Havaya, il est de trois lettres, Yud, Ke, Vav. Le He, le dernier He, la dernière lettre, c'est le un rajou, c'est la présence de la Shekhina, c'est le receveur. Yud Kevav, c'est Kutcha Berichu, c'est le Saint béni soit-il, en tant que donneur. Le He, c'est le receveur. En général, nous disons que la Shekhina accompagne, c'est la présence divine. Mais ici, c'est pas uniquement la présence divine, c'est le Dieu lui-même, le Dieu donneur, la partie masculine de la divinité, enfin de la divinité, de l'expression divine, le Dieu en tant que donneur. Et quel est le receveur? Le receveur, c'est Yaakov. Donc c'est là où va se former la partie. Qu'est-ce qui est attribué à la partie féminine du nom de Dieu? C'est le peuple d'Israël. C'est la Knesset Israël, l'assemblée d'Israël. Et cette assemblée-là va se former à ce moment-là. Donc Yaakov, il est inspiré, il voit les choses de manière claire. Ce qui lui a été interdit, on lui a retiré cela pendant toute la période qui a précédé, la période de tristesse. Donc il lui garantit tout ça. Donc Yaakov, il part dans la quiétude, dans la tranquillité. Alors après, il est mentionné les nombres de personnes. Alors on nous cite ici les noms de tous ceux qui descendent avec Yaakov. On arrive au nombre de 66. Après, il est mentionné que Yosef et ses deux garçons sont déjà en Égypte, donc on est à 69. Mais le pasouk dit qu'ils sont 70. Le pasouk dit que tous ceux qui descendent en Égypte, oubliez, kol nefesh, kol anefesh le bet Yaakov, toutes les personnes de la famille de Yaakov, Abba Mitzvah Mashivim. Alors quel est le 70e, 69? Rachid dit, on mentionne les Chachamim qui disent que Yochebed, elle est née juste en arrivant. Là, juste avant de pénétrer dans à Goshen. Donc c'est 70. 70, ça signifie, 70, c'est le Mishpat, ça fait référence au Sanhedrin. 70, c'est la puissance, comment la puissance de Dieu s'établit, la royauté s'établit par le Sanhedrin qui est composé de 70 membres plus auxquels on doit ajouter Moshe Rabbeinu. Donc l'établissement, les individus au nombre de 70 permettent, se conjuguent les énergies suffisantes pour que s'établisse la présence de Dieu de manière parfaite. Et là, il est dit qu'il a envoyé Yehuda. Ve'et Yehuda shalach lefanav. Il a envoyé Yehuda en éclaireur devant lui. Léorot. Léorot. Le sens simple de Léorot signifie que préparer le chemin. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire, il doit préparer la maison, les maisons, etc. Préparer ou ouvrir le chemin. Rachid dit, Léorot lefanav. Lefanot l'elmakom. Lefanot l'omakom. De préparer un endroit. Ou le Horot Erichachev, pour voir comment ils vont s'installer, etc. Tout ce qu'il faut, ils préparent à l'avance tout ce qu'il faut. Maintenant, les Horot, les Chachamim vont l'interpréter de manière différente. Ils vont le donner un autre sens. Les Horot fait référence à l'enseignement. Donc, il dit aussi, l'une des choses essentielles qu'il faut préparer quand on va ailleurs, quand le peuple va en exil, c'est de se préparer à un Bet HaMidrash. Donc, comment enfin, c'est l'exemple type de l'exil, c'est que les Bnei Israël ils changent de pays où ils sont exilés d'un endroit à l'autre. La première chose qu'ils doivent faire, c'est faire une synagogue. La synagogue signifie bête. La synagogue, c'est le lieu de rassemblement, un lieu où on va étudier, où on va enseigner, etc. La maison dans la synagogue, c'est le rassemblement. Mais l'essentiel de la synagogue, c'est le lieu de prière, mais aussi le lieu où on enseigne, où on étudie, où on indique, où on apprend comment se comporter. C'est l'institution centrale autour de laquelle se façonne, se construit la communauté. Et l'exemple est donné ici par Yehuda. Yehuda, il est le maître dans cette application, dans cette action. Voilà ce qu'il est dit ici. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Yehuda qui va. Il envoie Yehuda. Pourquoi Yehuda? Et pas Issachar. Issachar, il est préposé à l'étude. Pourquoi Yehuda? Donc ici, le texte dit, Ve'et Yehuda shalach lefanav el Yosef. Le'orot lefanav Goshna. Donc il envoie spécifiquement Yehuda à Yosef. C'est là, Yehuda, c'est Yehuda. De la même manière qu'au début de la paracha, c'est Yehuda qui s'avance vers Yosef. Vaïgash Elav Yehuda. C'est Yehuda qui parle. C'est Yehuda qui détient le droit de parole, qui représente ses frères. C'est lui qui est le pouvoir. Et c'est, il rétablit ici, Yaakov essaye de rétablir la relation entre Yosef et Yehuda. Yehuda, et on remarque ici que Yehuda, il est tout le temps demandeur. Il est dans le rôle de celui qui demande. Celui qui détient le pouvoir, c'est Yosef. Et c'est Yehuda qui lui demande. Donc Yaakov, ici, en choisissant d'envoyer Yehuda, il met Yehuda dans une position d'être receveur et non pas donneur d'ordre. C'est ça qui est intéressant. C'est exactement ce que Yaakov comprend il met Yehuda il fait admettre à Yehuda, en fait, que Yosef, il le domine. Il ne domine pas pour le dominer, c'est Yosef qui lui donne la possibilité de s'épanouir. Donc comme nous avons à plusieurs reprises expliqué la mida de Yosef, Yosef, il est tzadik yesod olam. Le tzadik yesod olam, il est le yesod, la mida de yesod, c'est lui qui n'agit pas pour lui, il est là pour que Yehuda qui symbolise la royauté, la mida de Malchut, qu'elle puisse s'épanouir. Donc comment elle se manifeste ici en Égypte? Il dit le Beit HaMidrash, la synagogue. La synagogue, c'est le Mikdash Me'at, c'est le petit sanctuaire. Le Beit HaMidrash, c'est Yehuda qui en est responsable. Yehuda, pourquoi? Parce que c'est là où réside où va résider la présence divine essentiellement. Et ça fait référence au Malchut. Ça fait référence à... C'est là où vont se déverser les énergies. Le Malchut, le Beit HaMidrash, un Beit HaMidrash b'lichidoy. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le Beit HaMidrash, en fait, c'est un bassin, un réceptacle, là où se déversent les énergies. Et c'est à partir de ce bassin-là, les Horot, ils vont, Horot, c'est-à-dire indiquer, enseigner. L'enseignement va sortir de là. Qu'est-ce que l'enseignement? C'est la lumière. La lumière qui va permettre aux uns et aux autres de s'épanouir dans ce pays-là. Et quel est celui qui en est le responsable? C'est Yehuda, parce que Yehuda, il est le roi. Donc le roi, en fait, il n'est roi que parce que le peuple le nomme. Donc il est, au départ, il est en bas, c'est un simple individu. On voit que Shmuel, par exemple, quand le peuple a réclamé un roi, il a désigné, la première fois, il a désigné Shaoul. Shaoul, qui était-il? C'était un simple kidam, un homme ordinaire. Et quand il le nomme, donc ils lui ont réclamé, Hachem lui désigne Shaoul, qui est un homme ordinaire. Après, il demande au peuple, voulez-vous ce monsieur-là qu'il soit votre roi? Ils disent oui. Donc au moment où ils choisissent de placer Shaoul en tant que roi, donc cet homme ordinaire, tout d'un coup... Donc cet homme ordinaire, on lui dit alors c'est lui, vous allez déverser vos énergies vers lui. Donc c'est comme si que le peuple lui accorde, lui attribue. Chacun d'entre nous déverse dans ce personnage qui est un homme ordinaire des énergies. Chacun lui confère le pouvoir, un pouvoir sur moi. Je te donne le pouvoir d'être mon roi. Donc on lui déverse les énergies. Et à ce moment-là, le roi, il s'élève au-dessus de tout le monde. Il s'élève et il devient quelqu'un de supérieur. Pourquoi? Parce qu'il est, au départ il avait rien, mais nous lui avons conféré. Et quand nous lui conférons nos énergies, notre destinée, nous lui attribuons le peuple lui déverse les énergies, de chacun déverse les énergies dans le réceptacle du Malchut. À ce moment-là, que Jvoro lui ajoute. Alors lui donne l'inspiration, le pouvoir, etc. Donc c'est exactement le concept du Shabbat. Le concept du Shabbat, le Shabbat c'est le jour qui n'a rien de par lui-même. Si on ne travaille pas tous les jours de la semaine et que le vendredi on ne prépare pas Shabbat, au Shabbat on n'aura rien. Donc le Shabbat est quelque part le pauvre de la semaine. Mais comme il est, on lui déverse, les jours de la semaine se déversent dans le Shabbat, à ce moment-là le Shabbat devient fort et puissant et le Haredi, il y a... Le concept de Aliyat HaOlamot, le Shabbat s'élève au-dessus, devient la couronne qui se place au-dessus des autres jours de la semaine. Donc il devient le roi. Shabbat Malketa. Au départ, Shabbat, il est rien. Il est un jour pauvre, puisqu'il ne peut pas produire. Alors, en s'élevant, alors il atteint les sommets. Et là, à ce moment-là, il devient la source de bénédiction. Donc c'est ça le sens même de la royauté. Et là, c'est Yehuda. Et Yehuda comprend alors à qui doit-il tout son pouvoir qui lui a été déversé, qui lui a été octroyé? Il le doit au vendredi. Parce que c'est les cinq jours de la semaine produisent, le vendredi, il conjugue toutes les énergies produites pendant la semaine et il les déverse. Donc s'il n'y a pas ce conduit-là qui déverse toutes les énergies dans le Shabbat, le Shabbat n'a rien. Donc le Shabbat doit sa réalisation au vendredi. Donc c'est Yehuda qui est le Shabbat, doit tout à Yosef. C'est ça ce qui est un peu quelque part mentionné ici. Donc et Yaakov veut envoyer Yehuda pour que Yehuda constate et accepte et assimile cette notion-là, que sans Yosef, il n'est rien. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.